Vous écoutez Jeudi Noir sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité sur 89.4. Et c'est la 127e de Jeudi Noir, puisque, comme le signale José, sur son petit papier où tout est indiqué, vous venez d'entendre un morceau de Mr. Wrong, qui était le bassiste de No Means No, le meilleur groupe du monde. Et un morceau donc intitulé, comme vous l'aurez peut-être deviné, The End of the World. Morceau de 92 et une reprise de Skeeter Davis de 62, voilà. Et comme d'habitude, José nous fait des thèmes, comment dire, des chansons à thème. Aujourd'hui, on va vous parler de la fin du monde. Et alors, c'est Jean-Mathias qui va surtout parler.
Bah oui, c'est la nouvelle année.
Et c'est la nouvelle année, donc voilà. Bon, ça c'est indiqué. Alors, c'est surtout Jean-Mathias qui va vous en parler, parce que moi, j'ai pas lu le bouquin. Donc, je peux vous assurer que c'est un livre rectangulaire. Voilà, déjà. Gris, avec une espèce d'image bleue au milieu. Ça a l'air intéressant. Moi, les livres, je connais pas. Et donc, c'est un livre qui s'intitule « Comment tout peut s'effondrer ?» de Pablo Servigne et de Raphaël Stevens. Et c'est sous-titré « Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes ». Donc la collapsologie, ça doit être le discours raisonné sur la fin du monde. Donc une espèce de discours apocalyptique rationnel. Et ça a été publié au Seuil, dans la collection Anthropocène. Voilà, alors Jean-Mathias, dis-nous, Mad Max, c'est pour demain ou après-demain ?
Bah d'abord tu l'as dit, hein, c'est une manière de pour Jeudi Noir de présenter ses vœux à tous les auditeurs, puisque alors la collapsologie, comme tu l'as cité, c'est plus exactement la science des catastrophes. Et donc dans ce livre-là, alors bon, de Pablo Servigne et Stevens essayent d'examiner un certain nombre de scénarios qui concernent le futur de la civilisation en général. C'est une approche assez globale de la chose. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que effectivement, les indices sont pas plutôt pas vraiment favorables.
On est mal barré.
On est plutôt mal barré, ouais. On est plutôt mal barré. Et alors la question, en fait, en résumé, bon, c'est d'abord un des intérêts du bouquin, c'est d'essayer déjà d'établir une espèce un état de la situation, quoi, hein, d'établir des faits, et d'essayer de voir un petit peu sur quoi on peut s'appuyer de manière un peu concrète. Et puis après, une fois qu'on a pris le côté déprimant de ces informations, c'est essayer de voir comment on peut faire. Alors là, on est quand même clairement vers des options pour essayer d'aller vers le moins pire, quoi. Hein, c'est pas vraiment le mieux, mais pour éviter qu'en tout cas pour éviter les scénarios les plus flippants, quoi. Alors voilà, ça c'est un peu le cadre général. Alors pourquoi j'ai choisi ce bouquin là en fait, c'est parce que c'est pas un discours complètement nouveau, mais ça a pris quand même une ampleur un petit peu inédite depuis quelques temps, depuis quelques mois en particulier.
Mais c'est un bouquin de 2015, non?
Le bouquin est de 2015, mais il est alors Servigne commence à beaucoup tourner dans pas mal de médias, bon, y compris des médias assez avec pas mal d'audience. Et ce qui fait que le terme de collapsologie, il s'est un peu inscrit dans le paysage, ce qui est assez surprenant, je trouve, parce que c'est un terme qui est un peu jargonnant et qui décrit une idée qui en plus est pas forcément très réjouissante, qui peut avoir des conséquences pratiques, psychologiques, politiques assez radicales, et pourtant ça arrive à s'implanter un peu dans le paysage. Alors c'est aussi intéressant pour une autre raison, c'est que Pablo Servigne, qui est un ingénieur agronome au départ, et en fait quelqu'un qui a des convictions anarchistes assez classiques, je dirais. C'est quelqu'un qui a notamment pas mal travaillé sur l'œuvre de Kropotkin, le prince anarchiste du 19e. Et qui était aussi un très grand scientifique, hein, de son temps. Et
un géographe.
Un géographe et un anthropologue, un biologiste. Et qui a notamment écrit un livre fameux qui s'appelle L'Entraide, dans lequel il essaye de contrer, mais de compléter les théories évolutionnistes de Darwin, en montrant que l'entraide avait des fondements naturels.
Mais défoncer aussi le darwinisme social.
Et en fait, ça, c'est un des auteurs de référence de Servigne, c'est-à-dire que c'est des références. Ce qu'il a en tête, tu parlais de Mad Max tout à l'heure. Alors, le scénario Mad Max, oui, c'est une possibilité, effectivement, c'est une possibilité, mais qui est lié, évidemment, qui n'est pas inéluctable, d'après lui. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de se demander, effectivement, dans quelle mesure on peut essayer d'éviter Mad Max et de faire en sorte d'avoir plutôt une solution d'entraide, justement. Si on peut dire d'entraide au sens de Kropotkin, quoi, c'est-à-dire de...
Voilà, c'est-à-dire de maximiser ses chances de survie en diminuant notre niveau d'individualisme.
En diminuant le niveau d'individualisme et puis en développant des liens de solidarité les plus forts, les plus connectés possibles. Donc le cadre général, c'est celui-là. Alors après. Alors, deux mots peut-être encore, juste pour la présentation un peu générale, de la collection du seuil dans laquelle ça apparaît. Alors, la collection anthropocène, ça aussi, c'est des signaux, des indices qui sont pas inintéressants. C'est une collection qui marche bien, qui est dite beaucoup, et qui a été en fait fondée au départ par des historiens du climat. Notamment Christophe Bonneuil, qui a été un des inventeurs de ce terme d'anthropocène. Et alors, c'est des historiens qui essayent
de... peut-être un peu le terme anthropocène.
Oui, rapidement, parce qu'on va pas expliquer tous les jargons du moment, mais ce terme d'anthropocène, effectivement, il est aussi assez régulièrement discuté. C'est l'idée, en fait, qu'on serait rentré dans une nouvelle ère géologique de la Terre, et une ère géologique très récente, puisqu'elle a en gros 2-3 siècles. Et qui a ceci de particulier que pour la première fois, les changements géologiques de la planète sont liés aux activités humaines. Et en fait, au transfert d'énergie, et au transfert de gaz, au transfert de particules, qui sont liés à l'exploitation de tous les hydrocarbures.
Et donc, il y aurait une couche géologique qui serait formée par l'activité humaine. Ce qui serait complètement nouveau, puisque jusqu'ici, la couche géologique n'était pas formée par l'activité humaine.
Elle était complètement indépendante. Et donc, on a affaire non seulement à une ère géologique particulière, puisque effectivement, là, les hommes sont co-acteurs de cette... En tant qu'agent géologique, en fait, quoi. Hein, les hommes, les femmes. L'autre particularité, c'est que c'est une ère qui a des phénomènes très... très accéléré, et on est sur une période très courte avec des phénomènes très très spectaculaires. Et donc la collection anthropocène, en fait, elle regroupe tout un tas d'auteurs et d'analyses qui étudient ce qu'on appelle la crise climatique parfois, mais de ce point de vue-là, c'est-à-dire à partir effectivement d'une approche un peu interdisciplinaire qui croise des données qui viennent par exemple aussi variées que l'étude des glaces de l'Antarctique, qui permettent d'essayer de fixer un petit peu la composition de l'atmosphère au cours du temps, hein, avec les petites bulles qui sont emprisonnées dans les différentes couches de glace, mais aussi bien sûr de l'histoire tout court, mais aussi de l'économie, mais aussi... Et ça donne cette catégorie, ce type d'approche un peu globale, l'approche écologique en ce sens-là. Et donc le livre et les analyses de Servigne et de Raphaël Stevens, ils sont dans cette perspective-là. Alors qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre ? On y trouve d'abord une multitude d'informations, de faits, de chiffres, de données, qui vont pour le coup tous dans le même sens. C'est pas tellement une surprise, et qui montrent, qui tentent à montrer en tout cas qu'on a des indices très très convergents de problèmes déjà présents, et de problèmes qui vont plutôt aller en s'amplifiant, quoi. Alors, il y a les domaines dans lesquels on peut observer ça. Bon, c'est la question de l'énergie, et notamment de l'usage des hydrocarbures, mais pas seulement. Il y a aussi l'état de la biodiversité, la question, la disparition des espèces vivantes, c'est ce qu'on appelle le déclin de la biodiversité. Qu'a des impacts évidemment directs, y compris sur notre alimentation et puis sur tout un tas d'espèces. La question des pollutions, bien évidemment aussi. Et l'idée, c'est d'essayer de voir en fait comment ces risques-là, qui sont des petits signaux allumés déjà au moins depuis une bonne quarantaine d'années. Hein. Le texte de référence souvent sur ces questions-là, c'est ce qu'on appelait le rapport Meadows, ou le rapport du Club de Rome.
Donc là, c'est plus 50 ans.
Voilà.
Parce que c'est 72,
donc oui, ça fait 50, t'as raison. Et en fait, c'est la première fois qu'on a eu un rapport étayé par différentes approches scientifiques sur les dangers qui étaient liés à la civilisation industrielle, d'une certaine manière, à la production industrielle, et puis à la recherche de croissance.
Ah, c'est ce qu'on a vu dans une émission précédente sur le bouquin de Foucard, des marchés et des dieux.
Qui citait aussi beaucoup ça, et en fait, c'est un livre, un rapport qui proposait notamment une espèce de modèle, de prospective un petit peu, hein, pour essayer qui partait notamment de l'hypothèse qu'on approchait du pic pétrolier pétrolier, c'est-à-dire d'un moment où effectivement le coût de l'extraction du pétrole deviendrait de plus en plus élevé et ne compenserait plus en fait les services et les richesses qui nous permettraient de produire. C'est-à-dire qu'il devient de plus en plus, du pétrole, il y en a encore beaucoup. Par contre, la nouveauté, c'est qu'il va être de plus en plus difficile à aller chercher et de plus en plus cher à extraire. Ce qui fait que les rendements énergétiques du pétrole, il y a un moment donné où ils vont aller effectivement,
ils vont devenir négatifs.
Négatifs.
Il faudra plus d'énergie pour extraire du pétrole, voilà. que l'énergie que produit le
pétrole produit. Et donc à partir de ça, ça c'est évidemment un axe hyper important parce que l'énergie à la fois dans l'économie, mais dans l'économie au sens global du terme, c'est l'ensemble de la production, des échanges et de la consommation. Le pétrole et la consommation des hydrocarbures, c'est le nerf de la guerre. Et donc à partir du moment où cette ressource-là s'épuise, il y a des tas d'autres problèmes qui se posent.
Ça, c'est le début de Mad Max.
Voilà,
la fin du pétrole,
c'est le début de Mad Max. Mais avant Mad Max, alors il y a tout un tas évidemment de difficultés qui apparaissent. Et alors une des originalités qu'ils font là, notamment Servigne et Steven dans ce livre, c'est de montrer le lien qui existe entre la civilisation du pétrole et le capitalisme financier, c'est-à-dire le système de la dette, comme ils disent. C'est-à-dire qu'ils montrent que le système financier tel qu'il s'est mis en place a été un des moteurs de la mise en place du système financier, ça a été notamment l'extraction du pétrole. Parce qu'évidemment, comme il y avait des espoirs de rendement colossaux, ça a été une source d'investissement considérable et qui a brassé des fortunes. Et c'est en fait, d'après eux, ça sert vraiment de moteur, quoi, au sens strict. C'est-à-dire qu'effectivement, on investit sur cette ressource énergétique qui elle-même va rendre des services et produire de l'énergie à outrance. Et du coup, derrière, on peut faire exploser une production, faire exploser une consommation qui va avec, etc. etc.
C'est-à-dire que pour les capitalistes, le moteur de l'histoire, c'est pas la lutte des classes, c'est l'exploitation du pétrole.
C'est le pétrole. C'est le pétrole. Et donc, évidemment, à partir du moment où on coupe le robinet, et ben derrière, ça veut dire que l'ensemble part avec, en fait. Alors, y compris, il le rappelle d'ailleurs, y compris les centrales nucléaires, hein, qui ont besoin de pétrole pour fonctionner, puisqu'elles sont alignées.
Voilà. Le nucléaire, c'est une blague sans fin, si j'ose dire.
Ah ouais.
Mauvaise blague sans fin.
Ah, c'est quelque chose, parce que donc il n'y a pas d'autonomie des centrales nucléaires face à la fin du pétrole, en fait, puisque il y en a besoin pour transporter les marchandises, la maintenance, etc.
Mais déjà qu'on avait réussi quand même à vendre le pétrole comme étant garant de l'indépendance énergétique française, qu'il n'y a pas d'uranium.
Sachant que
en France, on peut rigoler, mais si en plus on apprend qu'il n'y a pas d'autonomie des centrales nucléaires à l'égard du pétrole.
Non, tu n'en as pas.
Et alors, encore plus grandiose.
Alors, ce qui est intéressant, c'est en fait la particularité de ces approches-là. Alors, c'est en même temps ce qui fait parfois un peu le côté un peu ardu. Ça se lit très bien, c'est qu'il y a beaucoup, en gros le livre c'est une multitude de faits, de données, de chiffres, et une manière assez imagée et assez pédagogique de les présenter, avec des slogans assez percutants, avec des images, enfin il y a un vrai souci pédagogique pour montrer effectivement les indices de quoi on a sous les yeux, et donc ça c'est pas mal, mais du coup effectivement c'est un petit peu, c'est assez déprimant quoi. Parce que les effets dominos, en fait, ils sont liés. Les deux premiers échelons, c'est ceux que je viens d'évoquer. Donc la fin du pétrole, mais qui est inéluctable. La fin du pétrole, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus une seule goutte de pétrole, mais ça veut dire qu'en fait, il devient tellement cher à exploiter.
Qu'on n'exploite plus. Ce qui a permis à Milton Friedman de dire que le pétrole était virtuellement infini.
Exactement.
Genre, il restera toujours du pétrole parce qu'on n'exploitera plus les dernières gouttes de pétrole. Oui. Ce qui est absurde.
Et puis surtout, on s'en fout. C'est pas tellement le problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où.
Ah, ça, c'est les économistes souvent.
Voilà. Donc. Premier échelon, c'est ça. Le deuxième échelon, c'est le système de la finance et la dette, c'est les banques. Mais enfin, les banques, c'est aussi les salaires, les crédits, les loyers et l'ensemble de la circulation de monnaie. Hein. Enfin, en bonne part, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne actuellement. Et puis, évidemment, il y a tous les autres indices. Donc, alors, le réchauffement climatique, la chute de la biodiversité, avec des remarques qui sont parfois qui sont intéressantes, en disant que il y a des sur la question de la biodiversité, par exemple, la disparition des espèces, c'est pas des choses qui sont forcément visibles, parce qu'en fait, les espèces qui, en général, disparaissent le plus vite, et qui sont en train de disparaître le plus vite, c'est pas celles qui sont liées à celles qu'on a sous les yeux, mais c'est celles qui sont liées à celles qu'on a sous les yeux. Voilà. Donc c'est à l'échelon 2, en fait, que ça va le plus vite. Et en fait, ça pose déjà, par, dans certains cas des soucis importants, par exemple au niveau de la pêche évidemment, avec des comparaisons de rendement en fait de pêche, notamment pour des pêcheurs anglais qui sont assez assez spectaculaires. C'est qu'un pêcheur anglais pêche, alors je sais plus l'échelle de temps, mais il y a eu un rendement divisé par 6 en fait. En 60 ans en fait sur les mêmes zones de pêche au large de l'Angleterre. Donc ça commence à sentir bien sûr cette affaire là et puis évidemment du coup tout le principe, bon, c'est des choses connues, mais il le rappelle aussi, c'est le tout, par exemple la disparition des pollinisateurs, de tous les insectes pollinisateurs. Évidemment, s'il n'y a plus de pollinisation, il n'y a plus non plus
de végétaux, il n'y a plus d'animaux qui bouffent des végétaux, s'il n'y a plus de végétaux, il n'y a plus de carnivores.
Il n'y a plus de carnivores, et puis il n'y a plus d'agriculture végétale non plus, évidemment, puisque les végétaux ont disparu. Donc c'est tous ces aspects-là qui, à un moment donné, commencent à former une espèce d'analyse un peu systémique, comme on dit parfois. Et c'est ça en fait le alors à la fois l'intérêt et en même temps du coup aussi je dirais la difficulté de ça, c'est que c'est une approche de quand on parle d'effondrement de la civilisation ou de catastrophe de la civilisation, c'est parce qu'en fait il y a de plus en plus d'éléments qui permettent de penser cette évolution là comme un système, quoi, l'évolution d'un système. Alors lui, il aime pas le mot. Il parle pas d'apocalypse. Hein, apocalypse rationnel. Ouais. C'est pas ça. Il aime pas le mot crise non plus, parce que le mot crise, ça suppose qu'à un moment donné, on a une solution, évidemment. Et en fait, il dit que des solutions, probablement, il y en a pas. C'est-à-dire que ça, on l'évitera pas. Alors évidemment, il aime pas non plus l'histoire de. Enfin, pas évidemment, mais il est. En fait, la nouveauté, je trouve, de ce discours-là, peut-être après, on pourra faire une petite pause. C'est qu'en fait, ce sont des gens qui. Pour qui il est acté qu'en fait il n'y aura pas de développement durable en fait. C'est-à-dire que cette option-là est terminée, c'est-à-dire qu'en fait au moment du rapport Meadows, là, on pouvait éventuellement faire des choix, organiser des choses, réduire la consommation, repartir les choses.
Maintenant c'est trop tard.
C'est fini. C'était il y a 50 ans. C'était il y a 50 ans. Donc en fait, l'affaire est réglée. Et donc maintenant la question c'est de savoir
comment on va gérer.
Comment on va essayer d'éviter au mieux le pire, quoi. Voilà. Donc ce terme effectivement de il le dit là par exemple au début, il cite ça, précise un peu le sens, c'est de leur démarche, il dit donc on est page 18 là, il dit d'une part on subit des discours apocalyptiques, survivalistes ou pseudo-mayas, et d'autre part on endure les dénégations progressistes des Luc Ferry, Claude Allègre et autres Pascal Bruckner. Les deux postures, toutes deux frénétiques et crispées autour d'un mythe, celui de l'apocalypse ou celui du progrès, se nourrissent mutuellement par cet effet épouvantail et ont en commun la phobie du débat posé et respectueux, ce qui a pour effet de renforcer l'attitude de déni collectif décomplexé qui caractérise si bien notre époque. Donc c'est la collapsologie, elle a cette particularité d'essayer de s'appuyer au maximum, en tout cas c'est leur ambition, sur des données factuelles et des approches scientifiques dirons-nous, ou au moins factuelles. Voilà.
On va peut-être faire une petite pause musicale et puis on vous retrouve dans quelques minutes.
Ans que j'écris les mêmes saloperies, ce n'est pas l'argent mais les hommes qui m'ont tout appris. Tous ces petits bouffons qui glorifient les mises à la bande et les déferlements de violence. Tous ces petits penseurs plus proches des chiens que du peuple, avides de reconnaissance. Je les ai vus éclore, grandir, puis brandir la misère affective comme modèle de réussite. J'ai vu leurs petits frères s'envenimer au point de convoiter la place du boss pour rappeler des pépites. Le mérite et la morale sont au programme des 10 prochaines années. Je ne vais pas me laisser écraser, descendant de vaillants guerriers. Mort tellement de fois que je suis prêt à recommencer. Si je dois mourir au cours d'un contrôle de faciès, avec les miens, je reviendrai vanter du royaume d'Hadès. Notre passé sinistre, notre présent invivable. Heureusement que nous n'avons pas d'avenir. Notre passé sinistre, notre présent invivable. Heureusement que nous n'avons pas d'avenir. Chaque civil innocent que vous effacerez, nous ne pourrons l'oublier. Sa mémoire sera notre armure et le caveau de vos idées désuètes. Nous crachons sur la tête des quartiers du quart-monde. Vous avez brûlé notre passé, anéanti nos anciens, vidé les poches de nos parents avec le soutien de certains de nos voisins. À ceux qui ont dit oui aux rafles devant les écoles, devant les camions de restauration des plus démunis. À ceux qui à tout cela ont dit oui, vous êtes inexcusables. Votre geste sera sanctionné par l'extrême vigilance des parias et des incassables. Trop tard pour se questionner, et beaucoup trop tôt pour abandonner. Rescue Scatting Patchy. Notre passé sinistre, notre présent invivable. Heureusement que nous n'avons pas d'avenir. Notre passé sinistre, notre présent invivable. Heureusement que nous n'avons pas d'avenir. Le 93, mon œuvre droit, des portes héros du quotidien qui n'ont jamais relâché leur engagement dans la lutte depuis la guerre d'Algérie ou octobre 61. Vous ne savez pas ce que c'est de se battre jusqu'à en crever, simplement pour exister, pour honorer ces anciens, les réhabiliter. Nous sommes une horde sans histoire officielle, prêts à vous entraîner dans notre chute du haut de la falaise. N'en déplaise à nos détracteurs qui disent que tout est à portée de main. Rira bien qu'après le fascisme d'État, rigolera demain. Ouais. Notre passé sinistre, notre présent invivable. Heureusement que nous n'avons pas d'avenir. Notre passé sinistre, notre présent invivable. Heureusement que nous n'avons pas d'avenir. Notre passé sinistre, notre présent invivable. Heureusement que nous n'avons pas d'avenir. Notre passé sinistre, notre présent invivable. Heureusement que nous n'avons pas d'avenir. Heureusement que nous n'avons pas d'avenir. Notre passé sinistre, notre présent invivable. Heureusement que nous n'avons pas d'avenir.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa deuxième partie, consacrée, donc l'émission consacrée à un livre qui s'intitule Comment tout peut s'effondrer. Donc un livre de Raphaël Stevens et Pablo Servigne, publié au Seuil en 2015. C'est un petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes. Et donc dans la première partie, Jean-Mathias, qui est en train de s'effondrer, a essayé de nous décrire un petit peu pourquoi...
Beaucoup plus que toi.
Justement, beaucoup plus que moi, je suis désolé. A essayé donc de nous décrire, pourquoi, de fait, le monde est en train de s'effondrer et sur quelle base factuelle les collapsologues...
Ouais, c'est ça.
Se fondent pour nous annoncer le pire, le moins pire et le peut-être moins pire.
Et puis ce qui est important, je trouve, c'est le, parce que c'est ce que j'essaie de, ce qui m'a frappé dans le bouquin, c'est le type de l'originalité de cette démarche-là, si tu veux, par rapport à tout, tu vois, les parce que les discours sur l'écologie ou la crise environnementale et tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais là il y a un type d'approche, un type, et puis un type de perspective, si tu veux, qui est nouvelle, si tu veux. C'est-à-dire que...
Et j'avais oublié de vous dire que vous avez entendu Des Deux Cabales, La Mort de l'Avenir. Alors il faudra aller voir sur le site Mur du Lu, Jeudi Noir, Archive, machin, tout ça, pour voir comment ça s'écrit. C'est un morceau de 2008, voilà, donc La Mort de l'Avenir.
Et oui, donc la particularité, c'est ça, je te dis, t'as une espèce de changement de ton et de changement de méthode, je dirais. C'est que t'as plus de... On ne promet pas, voilà, on te promet plus de développement durable, Il n'est même pas favorable à l'idée de décroissance, en fait, parce qu'il
veut pas sauver les hérissons et faire des crapaudières sur les autoroutes.
Ce qu'il gêne dans l'idée de décroissance, c'est l'idée qu'on pourrait ralentir, en quelque sorte, qu'on pourrait, si tu veux, que si on ralentit, en fait, on va pouvoir gérer le truc.
On va se prendre le mur.
De toute façon, il y aura un mur. Donc c'est pas, il y a pas de décroissance, il y a pas de développement durable. C'est ni l'un ni l'autre. Et du coup, faut essayer de s'habituer à penser ça différemment, quoi. Et bon, alors évidemment, il rappelle, donc tu disais, beaucoup de données factuelles. On en donne quelques-unes peut-être là rapidement sur la question du réchauffement climatique dont je parlais. C'est pas la seule qui est évoquée, encore une fois, mais ça, c'est un des aspects, évidemment. Donc sur les résultats notamment du GIEC de 2014. Donc il rappelle ça, on est dans page 66, il cite là, dans un chapitre qui s'appelle Réchauffement et sueur froide. Début 2014, nous avons pu bénéficier d'une extraordinaire synthèse scientifique, le cinquième rapport du GIEC, qui est désormais catégorique. Le climat se réchauffe à cause de l'émission de gaz à effet de serre produit par l'activité humaine. La température moyenne globale a augmenté de 0,85 degrés Celsius depuis 1880 et la tendance s'est accélérée en 60 ans. Ce dernier rapport confirme la règle qui veut que les prédictions les plus alarmantes des précédents rapports deviennent des réalités. Nous sortons donc des conditions requises pour limiter le réchauffement à plus 2 degrés de moyenne en 2050 et nous pourrions atteindre plus 4,8 degrés à l'horizon 2100 par rapport à la période 86-2005. On remarque au passage que les projections initiales du GIEC sur la température globale ont été jusqu'à maintenant remarquablement précises. Ça, c'est pour le cadre général, ça reste un peu abstrait, donc il faut préciser. Les catastrophes ne concernent pas seulement les générations futures, puisqu'elles concernent déjà les générations présentes. Le réchauffement provoque déjà des vagues de chaleur plus longues, plus intenses, et des événements extrêmes, tempêtes, ouragans, inondations, sécheresses, etc., qui ont causé d'importantes pertes ces 10 dernières années, comme celle qu'a subie l'Europe en 2003, qui a provoqué la mort de 70 000 personnes, la canicule, et coûté 13 milliards d'euros au secteur agricole européen, ou récemment la Russie, l'Australie et les États-Unis. En 2010, les épisodes de sécheresse en Russie ont par exemple amputé de 25% la production agricole et de 15 milliards de dollars l'économie, c'est-à-dire 1% du PIB russe, obligeant le gouvernement à renoncer cette année-là à des exportations. On constate par ailleurs déjà des pénuries d'eau dans les parties densément peuplées, des pertes économiques, des troubles sociaux et de l'instabilité politique, la propagation de maladies contagieuses, l'expansion de ravageurs et de nuisibles, l'extinction de nombreuses espèces vivantes, des dégâts irréversibles et graves à l'encontre des écosystèmes uniques, la fonte des glaces polaires et des glaciers ainsi que les diminutions de rendement agricole, voilà pour le présent. Bon... Alors, pour le futur, ça continue. Cool. Dans un livre intitulé « Alerte, alerte au changement climatique », voilà, ah. José est en train de quitter le studio.
Le technicien s'en va.
T'es cherché. Il se remet à la vodka.
Et donc, il veut vivre. Il a décidé de couper l'émission. Attention, attention. Ouais.
Mais je continue quand même, pour les perspectives. Donc, dans un livre intitulé « Alerte, changement climatique, la menace de guerre », alors là, c'est plus le GIEC, c'est le spécialiste de questions militaires, Gwyn Dyer, que je ne connais pas, qui évoque les conséquences géopolitiques que pourrait avoir un réchauffement planétaire de quelques degrés, reprenant les conclusions de rapports rédigés par d'anciens hauts fonctionnaires militaires pour le gouvernement des États-Unis, ainsi que de nombreuses interviews d'experts, d'ailleurs évoque une palette de scénarios allant d'un monde à plus de degrés de moyenne, donc ça c'est le plus probable de ce vers quoi on va, au moins, donc qui serait déjà catastrophique, au scénario anéantissement qui est de plus 9 degrés. Alors allons-y, dans un monde à plus 2 de moyenne, donc ça, on y va plus que tout droit. Ce sera probablement plus. Les risques de conflits seront considérables. L'Inde, par exemple, a déjà entrepris de construire une barrière de 2,5 mètres de haut le long des 3000 km de sa frontière avec le Bangladesh. Un des pays d'où pourrait arriver un très grand nombre de réfugiés lorsque la mer aura envahi ces régions côtières peu élevées. Dans le reste du monde, sécheresse massive, ouragans à répétition, déplacement de population mettraient les frontières entre riches et pauvres sous haute tension. Les pays riches seraient déstabilisés par des problèmes agricoles sévères et certaines îles de l'océan Indien devraient être évacuées. Voilà un aperçu du scénario à plus 2, sur lequel on ne s'étendra pas puisqu'il n'est déjà même plus à l'ordre du jour. En effet, le livre se base sur des rapports antérieurs du GIEC, antérieurs à 2008, en particulier sur celui de 2007, qui lui-même fait la synthèse de travaux scientifiques publiés en 2002. Donc on n'est plus là en fait, on est déjà sur des scénarios au-delà. En novembre 2012, la Banque mondiale a publié un rapport qu'elle avait commandé à une équipe de climatologues de l'université de Potsdam sur les conséquences qu'aurait une augmentation de plus 4 sur nos sociétés et sur la vie sur Terre. Une moyenne de plus 4, ça signifie des augmentations jusqu'à plus 10 sur les continents. Il faut par exemple imaginer un été à plus 8 de moyenne dans le sud de la France. Le niveau des mers monterait environ d'un mètre en 2100, menaçant les grandes villes du Mozambique, de Madagascar, du Mexique, du Venezuela, de l'Inde, du Bangladesh, de l'Indonésie, des Philippines et du Vietnam, et rendant les principaux deltas impraticables pour l'agriculture, Bangladesh, Égypte, Vietnam et Afrique de l'Ouest. Le rapport est accablant et les conséquences particulièrement catastrophiques menacent clairement la possibilité de maintenir notre civilisation en l'état. Ça, c'est pour plus 4. Etc, etc. Alors par exemple, un chiffre pour donner un peu l'ampleur de la chose, c'est qu'avec plus 2, pour vous donner, la production, les simulations donnent une production agricole indienne diminuée de 25%. Donc 25% c'est le quart. Hein, voilà. Donc y a un peu de monde en Inde, donc ça laisse supposer ce qu'il y a derrière. Alors les scénarios sont ceux-là. Et là on ne parle que du réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'on laisse de côté la question des ressources pétrolières, la question des crises que ça pourrait provoquer, on laisse de côté les questions liées à la biodiversité, les questions à la pollution des mers, etc. etc. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'autres phénomènes qui sont liés, mais qui ne sont pas identifiés directement sous cette question du réchauffement. Alors, il y a beaucoup de choses comme ça dans le livre, hein, là, je ne vous le cache pas. Alors, ce qui est le c'est un livre qui discute beaucoup à partir de modèles. Alors des modèles, donc c'est une manière un petit peu abstraite de voir les choses, mais on est souvent au fond, c'est un petit peu l'héritage de ce qu'on a appelé la cybernétique, en fait, hein, dans les 50 ou 60, c'est la science des systèmes. Comment un système se comporte dans telle circonstance.
Et quelles sont les interactions des différents éléments du système.
Voilà. Donc, c'est une manière un peu abstraite de poser les choses, mais qui, en même temps, s'impose un petit peu quand tu es face à des phénomènes de ce type-là, parce qu'effectivement, c'est des trucs à plusieurs entrées, à plusieurs facteurs, etc. Mais du coup, effectivement, ils essayent, et la plupart des rapports, d'ailleurs... fonctionne comme ça. C'est essayer de voir comment réagit tel ou tel type de système par rapport à telle ou telle intervention extérieure, tel ou tel changement, comment il s'adapte. Par exemple, il y a des choses assez intéressantes sur la manière dont un système modulaire et relativement simple résiste finalement mieux à une perturbation extérieure. Ça résiste mieux à une perturbation extérieure. José a éteint la lumière par souci d'économie d'énergie, je suppose. Et pour prolonger un peu.
C'est ça, et maintenant il fait une tête de fantôme dans le studio, enfin bref. Et, enfin en régie, voilà.
Et par exemple, inversement, un système qui là ça va être plus compliqué, un système qui est plus homogène et plus connecté, va avoir tendance à résister mieux dans un premier temps, puis ensuite à s'effondrer brusquement en fait. Alors qu'un système modulaire et hétérogène, lui va décliner petit à petit, même si c'est quand il est confronté à une diminution de ses ressources, mais il a une force d'adaptation qui est plus linéaire. Et en fait, c'est surtout ça en fait qui est en jeu, c'est la question de savoir si on va dans quelle mesure on va avoir affaire à des phénomènes linéaires ou pas. D'accord. Et donc, alors ça rappelle d'ailleurs, ils le citent, hein, ils en parlent pas mal. Ça rappelle des questions qu'on avait discutées ici il y a déjà quelques temps lorsqu'on avait parlé des signes noirs de Nicolas Taïeb, qui reprend cette idée-là, l'idée qu'en fait, le plus souvent, on voit les choses de manière linéaire, c'est-à-dire qu'on on fait une espèce d'hypothèse sans même s'en rendre compte que demain ressemblera que le plus probable c'est que demain ressemble à aujourd'hui. Et c'est un raisonnement qui du coup c'est une manière de faire, y compris dans les sciences, hein, qui du coup exclut la possibilité même des ruptures ou des catastrophes.
On présuppose l'équilibre.
Exactement. Et hors catastrophe, il y a. Et ça arrive, voilà. Et en fait, la catastrophe, une fois qu'elle s'est produite, du coup, il faut bien la réintégrer à la chose. Mais elle est par définition pas visible avant. Et là, alors, par contre, effectivement, ce qu'on commence un petit peu à commencer à modéliser, c'est ça, c'est le caractère linéaire ou pas de certains phénomènes liés à certaines organisations en système. Voilà. Et en fait, c'est comme ça qui procède beaucoup. Alors, et ça donne des choses tout à fait terrifiantes, évidemment, puisque le pire est pas sûr, hein, c'est pas ça qu'il nous dit, mais enfin,
il est quand même vachement probable.
On peut déjà faire une croix sur le mieux et même sur le bien, quoi. Ça c'est sûr. Alors il y a par exemple l'idée comme ça. Je vous donne les choses un petit peu en vrac parce que c'est assez difficile d'organiser un peu le propos, mais des modèles. On présente un certain nombre de modèles d'effondrement, par exemple. Voilà. Alors, c'est un modèle qui a été, plus vers la fin du livre, là, qui a été mis en place par un économiste russe qui s'appelle Orlov et qui visait à essayer, à partir de l'effondrement de l'Union soviétique, de voir en fait quelles pouvaient être les différentes étapes qui permettraient d'anticiper en fait les effondrements de l'ampleur de ceux qui peuvent se produire qui se produiront probablement d'ailleurs, face au réchauffement, pic pétrolier, crise financière, etc. Alors, donc et évidemment, sa conclusion, elle est aussi très rassurante parce qu'il dit c'est comme ça que ça s'est passé en Union soviétique. En tout cas, c'est une espèce d'échelle de Richter en fait, tu vois, de l'effondrement. Et pour l'URSS, c'est les deux. On était à l'échelon 2. Il dit que ça, en fait, ça va se produire aux États-Unis. En fait, tous les facteurs en fait sont prêts pour que ça se produise aussi. Alors, comment il définit ça? Il dit en fait un cadre théorique dans lequel les effondrements peuvent être décomposés en 5 stades par ordre de gravité croissant. Alors, les 5 stades sont les suivants. Premier stade, le stade financier. Deuxièmement, le stade économique. Troisièmement, politique. Quatrièmement, social. Et le dernier, c'est le stade culturel. À chaque stade, l'effondrement peut s'arrêter là ou bien s'approfondir en passant au stade suivant dans une sorte de spirale d'effondrement. L'Union soviétique, par exemple, a atteint le troisième stade, on dit, voilà, donc l'effondrement politique, débouchant sur une altération profonde, mais non sur une disparition de la société russe. Grâce à cette échelle d'Orloff, on dispose d'une gradation pour les effondrements qui peuvent être de nature et d'intensité multiples, analogue à l'échelle de Richter pour les tremblements de terre. Alors, l'effondrement financier, ça en fait c'est le mieux qui puisse nous arriver, enfin c'est le moins pire. Ça se produit lorsque l'espoir d'un business as usual est perdu. Le risque de ne plus être évalué et les avoirs financiers ne peuvent plus être, le risque, pardon, ne peut plus être évalué et les avoirs financiers ne peuvent plus être garantis. Les institutions financières deviennent insolvables, l'épargne est annihilée, l'accès au capital est perdu. Adieu donc, livret A, crédit, investissement, assurance et fonds de pension. Comme ça s'est produit en Argentine en 2001, la confiance ainsi que la valeur de la monnaie s'évanouissent rapidement. Les banques restent fermées jusqu'à nouvel ordre, le gouvernement met en place des mesures d'urgence, nationalisation, assouplissement monétaire, assistance sociale, etc. pour tenter d'éviter les émeutes. Dans ce cas, suggère Orloff, mieux vaut apprendre à vivre avec peu ou pas d'argent. Deuxième échelle, l'effondrement économique, qui est déclenché lorsque l'espoir que le marché y pourvoira est perdu. Donc c'est la perte de confiance dans le marché. Les marchandises s'entassent, les chaînes d'approvisionnement sont rompues, les pénuries généralisées de biens essentiels deviennent la norme. Les quantités et la diversité des échanges commerciaux et des informations diminuent drastiquement. L'économie se décomplexifie progressivement, comme cela s'est produit à Cuba dans les années 90. Les importations chutent, les centres commerciaux finissent par fermer, faute de marchandises. Il n'y a plus d'abondance matérielle et l'économie informelle explose. Troc, réparation en tout genre, recyclage, brocante, etc. Pour maîtriser le cours des événements, le gouvernement tente de réguler les marchés en imposant un contrôle des prix ou des politiques de rationnement. Dans ce cas, vaut mieux savoir subvenir aux besoins de base de sa famille et de sa communauté avec ses propres moyens. Troisième échelon, l'effondrement politique se produit lorsque l'espoir que le gouvernement s'occupera de vous est perdu. Les mesures économiques du gouvernement ont échoué, la classe politique perd sa légitimité, sa pertinence, un processus de déstructuration. Invoquant le maintien de l'ordre, les gouvernements décrètent des couvre-feux, des lois martiales, comme dans le cas de l'ex-URSS. La corruption locale finit par remplacer les services autrefois garantis par l'administration. Les services publics ne sont plus assurés, les routes ne sont plus entretenues, les ordures ont du mal à être évacuées. Selon Orloff, pour les États-Unis et pour la majorité des pays riches, ces trois premiers stades sont désormais inévitables. Bon, on ne dit pas pourquoi, on aimerait peut-être en savoir un peu plus. Quatrième stade, l'effondrement social, se produit lorsque l'espoir que vos pères s'occuperont de vous est perdu. Les institutions sociales, locales, que ce soit les organisations caritatives ou d'autres groupes qui se précipitent pour combler le vide du pouvoir, tombent à court de ressources ou échouent à cause de conflits internes. On entre donc dans un monde de bandes claniques, on est dans Mad Max, de guerre civile et de chacun pour soi. À ce stade, un processus de dépeuplement se met en place. Conflits, déplacements, malnutrition, famine, épidémie, etc. Mieux vaut donc peut-être faire partie d'une des petites communautés encore soudées, dans lesquelles la confiance et l'entraide sont des valeurs cardinales. C'est là où on retrouve justement la petite espérance kropotkinienne. Et puis, le dernier échelon, c'est l'effondrement culturel, lorsque la foi dans la bonté de l'humanité est perdue. Alors, c'est marrant parce que c'est un côté très kropotkinien aussi, je trouve. Une espèce de presque de naïveté, je dirais, dans le fait, mais bon, enfin, qui est respectable hein, aussi, mais c'est parfois étonnant. Alors, les gens perdent leur capacité de gentillesse, de générosité, de considération, d'affection, d'honnêteté, d'hospitalité, de compassion, parce qu'ils supposent qu'ils les avaient encore gardés.
C'est ce que je me disais, c'est ça. Ils n'ont pas perdu avant.
Comme ça qu'ils font les Russes, tu vois, les s'ils y croient jusqu'au bout. Dans ce côté,
faut vraiment... ils ont survécu en même temps.
Ouais, il faut qu'on soit. C'est quand les troupes sont à 40 km de Moscou que là, il faut vraiment réagir.
C'est l'humanité en général.
Dans ce contexte, donc, il devient donc le dernier, il devient de plus en plus difficile de s'identifier à l'autre et en perdant cette capacité d'empathie, on perd ce qu'on appelle habituellement notre humanité. Bon, alors tout ça, c'est à la fois intéressant, en même temps, on voit bien un peu les limites du truc, c'est qu'en fait, tu dans n'importe quel film de science-fiction, tu
le vois en deux secondes.
Tu le vois, voilà, tu peux te mettre ça en deux, trois scènes si tu veux. Alors après, ce qui est. Pourquoi c'est intéressant quand même ? Parce que en fait, c'est le caractère encore une fois systémique et global effectivement du risque qui est nouveau et qui amène en fait effectivement à faire ce type de scénario-là. Et ça, c'est lié au fait que bon, alors c'est des choses qui sont aussi connues, mais effectivement, quand tu mets toutes les pièces du puzzle les unes à côté des autres, voilà, un monde ultra connecté où effectivement toutes les marchandises transitent, tu vois, sur des dizaines, des milliers de kilomètres. Ah, par exemple, des informations assez précieuses que je connaissais pas sur les transactions financières, parce qu'il parle de la crise d'un effondrement financier. Transactions financières. Elle repose notamment sur le code BIC là, que tu as sur tes relevés d'identité bancaire. C'est ça qui apparemment te permet de coder les transactions, mais partout dans le monde. Et en fait, ce qu'il indique, c'est que ces transactions financières, elles sont assurées par trois centres de gestion des données dans le monde. Il n'y a que trois endroits, en fait. Tu en as un aux États-Unis, tu en as un en Norvège et un en Suisse. Et l'ensemble des transactions financières d'Abbasidi passe par ces trois centres physiques-là. Et effectivement, trois, ce n'est pas beaucoup, en fait. il suffirait même que t'en aies un qui marche pas bien, tu vois, ou qui est, ou qui se passe quelque chose, ouais, mais si tu veux. Et là, pour le coup, tu peux vite avoir effectivement des phénomènes un peu d'effondrement tels que celui qui décrit. Sur la circulation des marchandises aussi. Alors ça, c'est intéressant aussi. C'est des simulations qui ont été faites suite à des grèves de routiers sur en fait l'impact de l'arrêt de la circulation des camions aux États-Unis. Alors, il a mis ça en résumé. Donc je vous le dis aussi. Donc les titres, quand les camions s'arrêtent, les États-Unis s'arrêtent. Et c'est des simulations qui ont été faites par les autorités sur la chronologie de la détérioration des principaux secteurs d'activité après l'arrêt du transport par camion. Alors, durant les premières 24 heures, si on arrête les camions aux États-Unis, c'est la livraison de fournitures médicales qui cesse dans la zone touchée. Les hôpitaux sont à court de fournitures de base telles que les seringues et les cathéters en 24 heures. Les stations-service commencent à manquer de carburant. Les usines qui fonctionnent en flux tendu subiront des pénuries de pièces. La poste et les autres livraisons de colis cesseront. Ça, c'est 24 heures. Bon. Enfin, ce qui est assez relativement fréquent. Après un jour, les pénuries alimentaires apparaîtront. Des carburants ne seront plus facilement disponibles, conduisant une flambée des prix à de longues files d'attente aux stations-service. Sans les pièces nécessaires aux usines et les camions pour la livraison des produits, les lignes d'assemblage s'arrêteront, mettant des milliers de travailleurs au chômage technique. Un jour. Alors, je ne sais pas sur quelle estimation il se base. Après deux ou trois jours, les pénuries alimentaires s'aggravent, en particulier si les consommateurs paniquent et constituent des stocks. Les fournitures essentielles comme l'eau en bouteille, le lait en poudre, la viande en conserve disparaissent des grands détaillants. Les distributeurs automatiques sont à court de billets. Deux à trois jours, ils mettent. Et les banques ne pourront pas traiter certaines transactions. Les stations-service à court de carburant, les poubelles s'accumulent dans les zones urbaines et suburbaines, les portes-containers s'immobilisent dans les ports et le transport ferroviaire est perturbé avant de s'immobiliser. Après une semaine, les voyages en automobile cessent en raison du manque de carburant. Sans voiture ni bus, de nombreuses personnes ne seront pas en mesure de se rendre au travail. Et les hôpitaux commencent à épuiser leurs réserves d'oxygène. Une semaine. Après deux semaines, c'est l'eau potable qui commence à manquer. Et après quatre semaines, le pays aura épuisé son eau potable et il ne sera possible de la boire qu'après ébullition. En conséquence, les maladies gastro-intestinales augmenteront, mettant d'autant plus sous pression un système de soins de santé déjà affaibli. Cette espèce d'effet domino là, à un côté, alors pour le coup, je ne sais pas si effectivement il y a des deltas de 24 heures dans ce qu'il raconte, mais c'est l'effet domino, je trouve, qui est assez convaincant, parce que pour le coup, le caractère connecté des flux de marchandises et le caractère à flux tendu aussi de ce système là fait qu'en fait on est effectivement dans un système extrêmement fragile, quoi. Ouais. En réalité, que ce soit effectivement les produits de première nécessité, les produits de... Et c'est là où tu vois qu'effectivement les effets du pic pétrolier, en fait, à supposer qu'il soit progressif, en fait, on n'y échappera pas, en fait, quoi.
On est dans des systèmes extrêmement complexes, ouais, qui, exactement, de ce fait, sont extrêmement fragiles.
Et tout à fait.
Et qui peuvent s'effondrer comme des châteaux de cartes.
Exactement.
Parce qu'ils sont construits sur des bases qui s'avèrent branlantes et peu solides. Ça, on en avait déjà parlé, hein, sur d'autres thèmes. Et effectivement, c'est un des grands thèmes que moi j'apprécie dans pas mal de trucs de science-fiction.
Exactement.
Qui insiste sur la fragilité de l'ensemble. Hein.
Et sur la connexion, tu vois, qui disait, tout à l'heure, on parlait des centrales nucléaires et du rapport de la dépendance au pétrole, mais par rapport au schéma, évidemment, le schéma d'effondrement d'Orlov, là, bah, évidemment, tu as une question aussi, le caractère connecté du truc, c'est qu'à partir du moment où, ça faut le savoir quand même d'un point de vue anarchiste, c'est qu'à partir du moment où l'État s'arrête, bah, en fait, il n'y a plus personne pour faire la maintenance des centrales nucléaires.
Oui. Ce qui peut poser un petit souci.
Voilà. Donc, si tu veux, je ne sais pas si les centrales nucléaires sont proches des centres de traitement des transactions financières, alors le Kuros, mais même pas besoin, c'est ouais, encore, ça va être gourmand, je dirais. Ouais. Mais en fait, ces effets dominos sont effectivement assez concrets et assez... ouais, terrifiant, il faut bien le dire quand même. C'est quand tu as un parc de centrales nucléaires comme celui de la France, que tu imagines pendant... que tu te projettes quelques minutes avec une absence de maintenance quotidienne, voilà, parce que des salaires non payés ou des gens non formés.
Ou des gens qui n'ont plus à manger et qui s'en vont pour aller manger ailleurs.
C'est un problème qui n'est pas simplement lointain. Là, il citait apparemment, c'était des déclarations du président du DF, mais qui ont déjà quelques années, où il disait qu'ils avaient un problème avec le départ en retraite des baby-boomers, c'est qu'en fait, ils n'avaient techniquement pas le temps, en fait, de former suffisamment de gens pour renouveler le
parc de gens.
Le
parc de gens suffisamment formés pour, exactement, continuer l'entretien optimal, ouais, de centrales nucléaires vieillissantes.
C'est ça.
Qu'obéissent à des normes techniques, peut-être, ouais, elles-mêmes oubliées, etc.
Exactement. Sachant qu'effectivement, avec la fin de la maintenance, tu perds aussi la... tu perds aussi les connaissances, en fait.
Oui.
Donc tu peux aussi imaginer des réacteurs nucléaires livrés à eux-mêmes sans que...
Sachant qu'en plus ce genre de truc repose souvent sur plein de connaissances techniques qui ne sont pas dans les manuels.
Exactement, exactement.
Ce qui rend la possibilité de catastrophe beaucoup plus grande. On va peut-être passer un peu de musique.
Ouais.
Histoire de vous réconforter. Bonne année.
L'avenir ne viendra pas tout seul si nous ne prenons pas des mesures. Attrape-le par les ouïes comme Sommol, attrape-le par la queue pionnier. La commune n'est pas une princesse féerique pour que d'elle on rêve la nuit. Calcule, réfléchis, vise bien et avance, ne serait-ce que dans le détail. Le communisme ne réside pas seulement dans la terre, dans la sueur des usines, mais aussi chez soi, à table, dans les rapports, la famille, les mœurs. Celui qui, à longueur de journée, grince des jurons comme une charrette mal graissée. Celui qui se pâme quand la balalaïque a jeun. Celui-là n'a pas atteint la taille de l'avenir. Sur les fronts, jouer des mitrailleuses, ce n'est pas en cela seulement qu'est la guerre. L'attaque de la famille, du logis, n'est pas pour nous moindre menace. Qui n'a pas résisté à l'emprise domestique et dort dans le bien-être des roses en papier? Celui-là n'a pas atteint la taille de la puissante vie à venir. Comme une pelisse, le temps aussi se mange des mythes quotidiennes. Le vêtement de nos jours poussiéreux, à toi de le secouer.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité, avec un communiste stalinien à la, qui a pris le contrôle de la régie et qui a pris en otage plusieurs micros. Mmh. Voilà, donc on ne sait pas trop comment on va s'en sortir, puisque vous venez d'entendre un morceau de Colette Magny qui se termine quand même sur Komsomol, qui s'intitule Désembourber l'avenir, un morceau de 1967.
C'était 5 ans avant le rapport de Rome.
Voilà, qui nous rappelle à quel point la vie privée est politique. Donc, entre autres choses. Bon. Merci José. On vous présente ce soir un livre, donc dans Jeudi Noir, un livre qui s'intitule Comment tout peut s'effondrer. Un livre de Raphaël Stevens et Pablo Servigne, publié au Seuil en 2015. Et donc là, on vous exposait précédemment les différents stades par lesquels l'effondrement peut arriver. Qu'est-ce qui tombe en premier, qu'est-ce qui tombe en dernier, et qu'est-ce qui reste après
ça, qu'est-ce qui s'effondre,
qu'est-ce qui s'effondre, ouais. Et qu'est-ce qui reste après. Et ça, c'est sont toutes les questions auxquelles on... qu'on essayait d'explorer un petit peu.
Bah, alors, une des questions qui, eux, les intéressent aussi, c'est en fait, sachant que... Alors là, ça rejoint les choses qu'on avait discutées à propos du livre de Stéphane Foucart, là, sur
des marchés
et des dieux. C'est évidemment la question qui intrigue, c'est comment se fait-il que ces faits étant documentés, connus, que tout le monde s'en fout, alors qu'en tout cas que tout le monde s'en soit foutu, parce que maintenant on n'en est même plus là d'une certaine manière. Mais pourquoi effectivement ça débouche pas sur ce changement? Et là c'est là où les choses deviennent un peu compliquées, c'est que ils disent qu'en fait des solutions en réalité il y en a pas vraiment, c'est-à-dire qu'on peut pas régler ce problème-là, on ne pourra pas éviter ce problème-là, Parce qu'en fait, bah, le pétrole, effectivement, écrase toutes les autres sources d'énergie, les empêche d'émerger. Et puis, bon, après, ce sont des choses qui sont plus connues, hein, mais effectivement, la croissance, de manière générale, et le système qui repose sur elle.
Non, plus aussi, des politiques tout à fait définies par les multinationales qui.
Oui, mais pas seulement par les multinationales.
Parce que pas seulement, mais malgré tout. Tu vois,
oui, mais tout le système de protection sociale repose sur la croissance.
Oui, aussi.
Voilà. Tout le système de protection sociale, les retraites, l'assurance chômage,
si tu retiens la croissance, eh ben oui, il n'y a plus rien qui fonctionne.
C'est pas que des décisions des
je pense aux termes écologiques, en termes écologiques d'exploitation du pétrole.
Et le problème, il est là. Pour effectivement envisager autre chose, il y a beaucoup de choses à bouger, quoi. Hein. Et donc cette question-là, bon voilà, le progrès technique, même chose, c'est-à-dire qu'effectivement, on est prisonnier, comme ils le disent, c'est pareil, l'idée est pas d'eux, mais il l'a formulé, on est prisonnier des décisions et des options technologiques de nos arrière-grands-parents. Et en fait, les systèmes techniques sont ainsi faits qu'en fait, ils ont tendance à monopoliser et à empêcher en fait l'émergence et la rentabilité de systèmes alternatifs. Là, c'est typiquement le cas pour la question des énergies renouvelables, c'est-à-dire qu'en fait la rentabilité des énergies renouvelables n'est pas concurrentielle avec celle du pétrole aujourd'hui, donc elle n'émerge pas. Point. Voilà. Elle n'émerge pas parce que les gens, ils ont besoin de se déplacer. Voilà.
Donc, il faut attendre que tout se casse la gueule pour éventuellement.
Non, parce que ça sera trop tard.
Ça sera trop tard
parce que de toute façon, là, on n'aura pas les
ressources,
les ressources pour lancer ça. Et on n'aura plus les centres de décision, le plus probable, c'est ça, quoi, si tu veux. Donc, en fait, on n'échappera pas à ça, quoi, probablement. Et donc ça, c'est des points qui sont intéressants. Les réactions en face, alors c'est un argument sur lequel je les trouve un petit peu plus faibles. C'est des arguments qui s'appuient beaucoup sur des études de psychologie sociale ou ce genre de choses là. Donc comment le fait que en fait la décision n'ait de sens que si elle est collective, fait que du coup personne effectivement ne la prend parce qu'on attend que les autres le prennent, etc. Et comment ça conduit à une paralysie. Bon, ce qui est pas forcément complètement faux, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand chose. Et puis c'est valable pour à peu près n'importe quelle décision difficile à prendre, quoi. Bon, ça se passe pas toujours comme ça. Donc ça, c'est un aspect que j'ai trouvé un peu moins convaincant. Il y a un peu cette combinaison-là, quoi, entre des espèces d'analyses cybernétiques de systèmes, de simulation de systèmes, et puis de la psychologie sociale, et puis on essaie de voir ce que ça donne. Mais il y a des tas d'autres choses qui, pour le coup, sont intéressantes. Bah, ce qu'on disait sur la manière même dont ils pensent la possibilité du catastrophique, et cette idée de signe noir, là, qu'ils reprennent. Donc ça, c'est toujours intéressant. Le fait de dire qu'en fait, on n'a pas affaire à un avenir plus ou moins probable, mais qu'en fait, on est à peu près sûr qu'on va vers de l'incertain, c'est-à-dire vers de l'imprévisible, en quelque sorte. Donc ces distinctions-là, pour le coup, intellectuellement, sont intéressantes. Et puis, alors, pour nous, sur cette antenne, c'est vrai que c'est un thème qui n'invente pas non plus, mais c'est la manière, et ce qu'il rappelle, c'est que cet effondrement déjà en cours, ou très probablement en cours, c'est aussi une espèce de dynamique d'hétéronomie. En fait, hein, qui se met en place, c'est-à-dire que elle rend les gens de plus en plus dépendants de décisions qu'ils n'ont pas prises, auxquels ils ne peuvent plus s'opposer, que ce soit dans l'usage des techniques, dans leur mode de vie, dans leur consommation, dans leur rapport à l'État. Évidemment, une société dont les rendements de production deviennent décroissants, c'est assez évident que c'est une société qui va augmenter le contrôle social de sa population pour empêcher justement que les gens qui ne sont pas rentables ou que les chômeurs ou que les précaires. Toute ressemblance avec des situations présentes, voilà, évidemment, et assez facile à faire. Il y a cette espèce de spirale là, de perte de l'autonomie, qui pour le coup effectivement est assez bon. C'est pas rassurant non plus, c'est pas enthousiasmant non plus, mais je trouve que une perspective libertaire, ça se pose là. On va peut-être finir justement là-dessus sur encore un. Voilà, c'est un petit peu dur quand même, parce que c'est une citation de Barack Obama. Donc il parle des systèmes techniques et de ce que je disais juste à l'instant, si tu veux, le fait que tant qu'un système est rentable, en fait, on le fait tourner et il empêche les autres d'émerger, et que du coup, à partir du moment où il s'effondre, et ben en fait, il n'y a pas d'alternative.
Parce qu'il est trop tard pour.
Voilà, il est trop tard pour avoir les ressources et les moyens de le faire. Donc elle a aimé la puissance et l'omniprésence de ces verrouillages socio-techniques ont rendu les personnes qui en dépendent, nous, extrêmement hétéronomes, c'est-à-dire dépourvues des capacités de se débrancher ou de simplement tenter de retrouver quelques îlots d'autonomie. Le monde politique aussi, structurellement orienté vers des choix à court terme, n'a que peu de degrés de liberté. Comme l'avoue Barack Obama, il cite... Je pense que le peuple américain a été et continue à être si concentré sur notre économie, nos emplois et la croissance, que si le message est quelque part d'ignorer les emplois et la croissance, simplement pour traiter la question climatique, je ne pense pas que quiconque s'engagera dans cette voie. Moi, je ne m'y engagerai pas, en tout cas.
Oh, c'est une franchise redoutable.
Ouais, mais c'est... Oui, c'est... Et alors, le... Tout est là, parce que si tu veux, après, effectivement, donc, les prospectives, c'est quoi? Bah, c'est regagner ces espèces de sphères d'autonomie sur, voilà, ton alimentation, sur tes soins, sur ton mode de vie, sur ton rapport au temps, mais tu vois, en même temps, enfin, vis-à-vis de... Qu'est-ce que ça veut dire essayer d'être autonome vis-à-vis de l'électricité ou de l'eau courante?
Ou même vis-à-vis de ses dents cariées.
Ouais, ou vis-à-vis de ses dents cariées. Qu'est-ce que ça signifie ça quand t'as un traitement, une maladie chronique avec un traitement, voilà. Bon, qu'est-ce que ça signifie regagner ses marges d'autonomie? Voilà. Et en même temps, effectivement, c'est quand même vers ça que probablement on pourrait, en tout cas, essayer de faire. Et c'est en tout cas lui, c'est comme ça que c'est clairement qu'il voit les choses avec cette approche. Donc effectivement, libertaire à la Kropotkine là, que finalement dans une situation de nécessité, hein, de nécessité naturelle, de contrainte naturelle extrême, et ben en fait, les meilleures chances de survie sont plutôt du côté de ceux qui vont s'entraider plutôt que de ceux qui vont aller chercher les bidons d'essence avec la mitrailleuse sur la moto. Voilà.
Comme dans Mad Max. Voilà, c'était la 127e de Jeudi Noir. Vous pourrez retrouver l'émission sur Gurdulu, Archive, Jeudi Noir. Tapant ça dans vos moteurs de recherche, qui fonctionnent encore. Grâce au pétrole et grâce à des centres... Grâce à des centres, comment dire, de données absolument énormes qui consomment une énergie folle. Et voilà, les copains d'Entre Chien et Loup sont pas encore arrivés. On ne sait pas s'ils viendront. Peut-être qu'ils ont été bloqués par Mad Max. Et en attendant,
ils sont peut-être en panne d'essence.
Ou peut-être en panne d'essence. Ouais. En attendant, vous pourrez écouter les The Sticky Kids. Bientôt la fin. Voilà, un morceau de 2015.
Bonne année.
Bonne année.
Apprends que leurs désirs font des ordres, qu'on a tous un côté sombre et que nous ne sommes que ces hommes. Ces enfants qui grandissent affinent leur style afin qu'ils resplendissent dans une société qui te comprime dans ta rétine, imprime leur doctrine. Trop d'hommes pressés se perdent à vouloir faire et devenir trop vite, en ont laissé leur repère pour se construire un meilleur avenir chronique. Alors tactique quand ils nous poussent près du gouffre, on bouffe car nos manches on les retrousse alors qu'on court tous les jours avec l'amour aux trousses. Prendre le temps d'apprendre et d'aimer, voilà ce qui devrait donner sérénité aux hommes qui ne croient plus en leur intégrité. J'ai le cœur rongé de remords, la tête bombardée de rumeurs, le mal de tête comme une tumeur. Et comme tout, je me soigne à la médecine douce et ça sans cesse, j'avoue, ça joue sur mon humeur. Chacun veut bâtir un empire avec ses pierres, alors que les fondations de chaque nation sont de pire en pire. Ça part en ruine, bientôt la fin de leur empire. Bientôt la fin de leur empire. Chacun veut bâtir un empire avec ses pierres, alors que les fondations de chaque nation sont de pire en pire. Ça part en ruine, bientôt la fin de leur empire. Bientôt la fin de leur empire. L'homme n'est pas mauvais mais peut le devenir si on lui coupe les vivres, le droit d'être libre. Pourquoi suis-je souvent ivre alors que l'espoir pourrait me nourrir dans chaque page que j'ai écrite dans mon livre? Conscient que je me détruis bien sûr, et en quoi serait-ce condamnable alors qu'ils nous ont tués à l'usure et se feront passer comme irréprochables? L'unité n'est pas simple quand chacun voit son intérêt. Suffit pas d'un mouvement de bassin pour faire flancher tous ces tarés. Si j'avais 30 millions d'amis, aurait 500 connards sur ma ligne de départ. Dès le départ on a compris qu'ils nous la mettent. L'état se gave et a laissé les quelques miettes. Leur corruption, voilà ce qui empoisonne toutes nos assiettes. Et on n'a pas fini de bouffer de leur merde. Monsanto gère ses affaires et les investisseurs s'affirment. Des cas du bis dans l'air mais que les banquiers s'affirment. Quitte à polluer l'air qu'on respire et rend des gens infirmes. Yeah. Chacun veut bâtir un empire avec ses pierres, alors que les fondations de chaque nation sont de pire en pire. Ça part en ruine, bientôt la fin de leur empire.
bientôt la fin de leur empire. Chacun veut bâtir un empire avec ses pierres, alors que les fondations de chaque nation sont de pire en pire. Ça part en ruine, bientôt la fin de leur empire. Bientôt la fin de leur empire. On se replie sur nous-mêmes et on encaisse en silence. On veut tout changer le monde, améliorer nos finances. C'est là que le bas blesse, c'est là qu'on manque de lest. C'est là où les mecs j'ai refusé de retourner ma veste. Puisque les gens disent c'est ça comme c'est facile, et les voleurs de pommes en resteront leur première cible. Pendant qu'une élite trinque pour sa réussite, quelques moutons sont nourris par le berger et puis s'en félicite. Pour quelques deniers collaborent avec celui-ci et se dit que l'enfer c'est les autres qui vont de plus en plus vite. Les gens disent que le temps passe, mais le temps dit que les gens passent trop vite, stressés, pressés. Vois le monde à travers un tube cathodique, pense avoir un comportement des plus catholiques. Les mêmes qui me trouveront un ennemi, lui aussi responsable de mes problèmes, lui aussi responsable de tes problèmes.
Chacun veut bâtir un empire avec ses pierres, alors que les fondations de chaque nation sont de pire en pire. Ça part en ruine, on aimerait dire que c'est bientôt la fin de leur empire. En attendant, on jette nos pierres dans leurs édifices, attendant s'ouvrir aux lèvres la chute, la fin de leur empire.